Bonjour bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous fait, car chaque semaine est une grâce de Dieu. Même si nous avons souvent le sentiment ou la conviction que c'est un acquis, que les semaines vont s'enchaîner, rappelons-nous que le Covid nous a montré que ce n'est pas si vrai que ça. Que des fois nous ne maîtrisons rien et que des fois nous pouvons être bien surpris. Alors, toutes les fois que le sou de vie nous est donné et que nous nous réveillons un matin, disons merci Seigneur. Chaque fois que nous achevons une semaine, disons merci Seigneur. Elles ne sont pas pareilles les semaines. Il y en a qui sont très tranquilles et puis il y en a parfois un peu mouvementées. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous fait grâce et nous pouvons dire merci Seigneur pour cela. Le dimanche dernier, nous nous sommes entretenus sur le thème de sauver pour servir. Et j'avais expliqué dans les textes bibliques que nous avions médités que Dieu, dans son projet, lorsque sur notre chemin de vie, avec la méthode et les moyens que lui seul sait utiliser, nous permet de réaliser qu'il existe et nous permet de prendre conscience que notre existence sans Dieu, certes, est une existence humaine, mais que c'est une existence qui a une fin tragique, parce que sans Dieu, une fois que nous serons partis d'ici, nous serons dans le châtiment éternel. En tout cas, on peut avoir toutes les imaginations qu'on veut. Malheureusement, ces imaginations ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre cette vie sur cette terre. Et une fois après que la mort est là, il y a deux destinations finales. C'est soit la félicité éternelle avec Dieu, qu'on appelle le paradis, soit le tourment éternel que quelques-uns appellent l'enfer. Nous n'avons que deux adresses après que nous sommes partis de cette terre. Et les prophètes de l'Ancien Testament n'ont cessé de le dire au peuple d'Israël. Un certain Josué, à la fin de cette grande bénédiction que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a eue lorsqu'ils ont été installés, qu'ils ont eu cette bénédiction matérielle, Josué leur a dit, c'est maintenant que vous devez choisir lequel des dieux vous voulez servir. Et il a dit, quel que soit votre choix à vous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que de loin comme de près, il n'y a pas de meilleur choix que de laisser Dieu entrer dans sa vie en Jésus-Christ. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que ce message a eu un écho d'une façon ou d'une autre dans notre cœur. Et donc, si nous sommes sur ce chemin, le projet de Dieu, c'est que nous soyons serviteurs de Dieu, dans le sens où le service de Dieu, c'est aimer Dieu, n'est-ce pas ? Aimer Dieu et serviteur de notre prochain. Aimer son prochain. Et lorsque nous sommes sur ce chemin et que nous avons compris cette vérité et que nous la laissons grandir en nous en la pratiquant, Dieu ne reste jamais redevable à l'homme de ce qu'il fait pour lui. C'est-à-dire que si notre service s'engage dans ces deux voies, servir Dieu, servir notre prochain, Dieu est celui qui voit toutes choses et qui nous en récompense aussi. Jésus pouvait dire, et là je suis en train de synthétiser le message de la dernière fois. Dans Marc chapitre 10, Jésus disait, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le ciel à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu promet que lorsque nous avons fait ce bon choix, il nous promet sa présence, sa guidance, sa providence. Il est avec nous dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de difficulté. Et c'est une garantie. Et dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul pouvait dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » À tous vos besoins. C'est une promesse que Dieu prend. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y a des moments où les choses sont plus difficiles. Et que c'est en ces moments-là aussi qu'il veut manifester son amour de Père, son existence, sa présence. Ça ne veut pas dire non plus que parce que nous sommes chrétiens que tout ira bien. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas avoir les mêmes difficultés que ceux qui ne le sont pas. Ça veut simplement dire que nous avons une grâce, un privilège. C'est que même dans les difficultés, on peut compter sur quelqu'un. On peut compter sur Dieu. Et c'est sûr qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous lâche pas. Il est là, il est présent. Et justement, ce matin, je voulais voir avec vous un thème. Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que dans ces moments-là, nous avons besoin de communier avec lui. Pas quand tout ne va pas bien, mais souvent, c'est quand tout ne va pas bien que nous avons besoin de crier à quelqu'un. Celui qui est le seul capable, souvent, dans des situations compliquées, de nous répondre. Je vais peut-être lire avec vous la prière d'un certain André Dumas. Et vous comprendrez que ce chrétien, dans son désir de servir Dieu, a fait une prière qui reste une prière remarquable. C'est tout petit, mais vous voyez. Il dit, quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette église, qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur, trop grande aussi pour notre petitesse. Une église mal aimée et du coup mal aimante. Une église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une église qui se paie de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de la lorgner, de lorgner cette déficience par le trou de sa serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte les bancs des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Vas-y. Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape la brebis qui boite et qui s'attarde. Comme sans cesse, le raccommodeur rattrape la maille qui file et qui déchire. Ton fils est la tête d'un corps aux membres disjoncts. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens, et non pas seulement aux individus qui se préfèrent chacun eux-mêmes. Car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens, et non pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton dessein total. J'hésite à l'appeler ma mère, car elle ne m'a pas engendré, mais je l'ai rencontrée. J'hésite à l'appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par l'obscurité du sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le pire et pour le meilleur. C'est ma nouvelle famille dont tu es l'initiateur, ton fils le libérateur et ton esprit le rassembleur. Amen. La première fois que j'ai lu cette prière, c'est dans un livre qui s'appelle « Recueil de prières » d'André Dumas. Ça m'a touché. Parce que devant le constat qu'il faisait de l'Église à laquelle il appartenait, et de l'Église en général de son temps, il avait beaucoup de critiques contre l'Église. Et puis dans sa prière, il dit finalement, toutes ces critiques-là, qu'est-ce qu'elles entraînent dans mon cœur? Et moi-même, qu'est-ce que je fais au lieu de critiquer seulement? Il dit, toutes ces critiques, en fait, je les fais aux autres. Mais comme je ne suis pas impliqué moi-même, c'est facile de critiquer. Je veux désormais quitter le banc de ceux qui regardent sans rien faire et apporter ma pierre aussi. Parce que finalement, cette église, c'est ma famille. C'est ma famille. Et je ne peux pas regarder ma famille sans apporter ma contribution. Et cette prière me permet ce matin de nous aider à continuer notre méditation sur servir. Seigneur, enseigne-nous à prier. Un des disciples dit, Seigneur, Jésus lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Vas-y, Eric. Et à cette question, sinon à cette invitation, le Seigneur va répondre. Nous sommes dans deux évangiles. On a cet épisode précisément dans l'évangile de Luc et on a un autre épisode dans l'évangile de Matthieu. Mais celui où c'est un disciple qui pose la question, c'est dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Et ça commence comme ça. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé cette prière, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » C'est celle-là la version que nous avons dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu nous raconte une autre séquence où Jésus enseigne aussi cette prière. Matthieu chapitre 6, à partir de la fin du verset 9, et Jésus lui dit, si vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. On s'étonne des fois que dans notre milieu dit évangélique, nous ne connaissons pas cette prière par cœur. Et moi-même, j'enseignais hier à l'Institut public de Nogent et je réalisais effectivement que beaucoup d'évangéliques chrétiens ne connaissent pas cette prière par cœur. Est-ce que je me trompe? Non. Alors que c'est là, c'est l'unique fois dans la parole de Dieu où les disciples demandent à Jésus de l'apprendre à prier et Jésus formule cette prière pour les disciples. Il dit, si vous priez, dites. Mais je sais d'où ça vient. Ça vient du fait que nous avons rejeté un héritage de piété qui n'est pas un héritage que nous voulons garder. Cet héritage, c'est des prières qu'on répète sans les comprendre. Et vu que pour la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans cet héritage et cette prière était une prière finalement, c'était une récitation plus qu'une prière, nous avons fait un blocage. Nous avons rejeté cet héritage au nom de ce blocage-là de dire, oh, J'ai compris ce que c'est que la prière. La prière, je dois être impliqué dans la prière. C'est moi qui dois dire des choses à Dieu. C'est moi qui dois louer Dieu. C'est pas juste quelque chose que je dois réciter sans savoir la profondeur de ce que je dis. Or, dans cet héritage-là, on m'a appris ou j'ai appris à réciter sans que cela m'implique moi-même. Voilà pourquoi j'ai rejeté cette prière. Mais maintenant que tu connais le vrai sens de la prière, tu dois te réapproprier cette prière, car elle est de Jésus. Je me souviens que j'avais aussi fait ce blocage avec cette prière-là. Et puis, pendant plusieurs années, dans ma foi protestante évangélique, j'avais rarement entendu à nouveau prier cette prière. Et puis, lors d'un événement malheureux, lors d'un obsèque, le président de cette cérémonie d'hommage a souhaité que tous les chrétiens qui étaient présents puissent de façon unie prier la seule prière que finalement tous les chrétiens devraient connaître. Et là, il a dit, nous allons prier le Notre Père. J'étais pas sûr de pouvoir me rappeler de cette prière. Et lorsqu'il a dit Notre Père, et que tout le monde a commencé à le dire, c'est comme si instinctivement cette prière était dormante dans ma tête, elle s'est réveillée. Et j'ai pu la réciter sans me tromper. Et j'étais content finalement de l'avoir apprise, même dans ces circonstances-là. Notre Père qui es au ciel. C'est une prière qui nous invite à revisiter un peu notre piété. La piété, c'est un trait distinctif du disciple et du chrétien. Et c'est quoi un disciple? Le disciple, c'est celui dont le style de vie palpable, c'est-à-dire le style de vie qui se manifeste au quotidien, est caractérisé par la piété. Et la piété elle-même, elle est définie comme un profond attachement à Dieu et un profond respect pour Dieu qui se nourrit de la parole. Et la piété ne se réduit pas, finalement, à quelques actes cultuels, c'est-à-dire des actes qui sont liés au culte et à l'Église, ou à quelques actes spirituels bien repérés. La piété, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que la méditation, ce n'est pas que la vie d'Église. Mais c'est finalement un style de vie qui englobe l'ensemble de notre existence. C'est à notre façon d'agir finalement devant Dieu, révélé en Jésus-Christ. Il y a eu cette expression qui est devenue une expression malheureuse, chrétien de dimanche, parce que finalement, pour beaucoup de chrétiens, leur piété n'était vue que les dimanches. En semaine, ils étaient Monsieur X, Madame Y, et puis le dimanche, du coup, ils étaient chrétiens et chrétiennes. Parce que c'est que le dimanche qu'on voyait finalement l'aspect de leur croyance. Et pendant la semaine, cet aspect ne se voyait presque pas. C'est pour ça que la piété n'est pas que les actes qui sont liés au rassemblement d'église. C'est notre vie, finalement. C'est dans toute notre vie que nous devons être attachés à Dieu. C'est dans toute notre vie que nous devons avoir ce profond respect pour Dieu. C'est dans toute notre vie que notre vie elle-même doit être nourrie de la parole de Dieu, de la Bible, n'est-ce pas? Pour nous les chrétiens, parce que d'autres aussi ont leur piété, mais pour nous les chrétiens, en tout cas, la piété signifie une dévotion, une consécration sincère à Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Quand on dit pieux, quelqu'un de pieux, quelqu'un de pieuse, ça vient de cette racine qui veut dire quelqu'un qui a quelque chose de plus. C'est ce respect des devoirs envers Dieu, le Dieu des créatures que nous sommes. C'est un modèle, c'est un style de vie. C'est ce que nous appelons notre témoignage, notre foi. C'est notre façon concrète et pratique de vivre finalement ce que nous croyons. C'est pour ça qu'on est un peu que ça ne fait pas de sens quand on dit je suis un chrétien non pratiquant. c'est une expression qui elle-même ne peut pas se dire. Malheureusement, on l'a dit parce que finalement, beaucoup sont des chrétiens nominaux, c'est-à-dire qu'on porte un nom et que finalement, on ne vit pas comme ce nom-là voudrait qu'on vive. C'est un engagement total qui affecte tous les domaines de la vie humaine, la piété. Et les caractéristiques de la piété, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, c'est le zèle, c'est-à-dire cette vivacité à avoir ce lien avec Dieu. C'est ce dévouement, cet engagement profond à aimer vivre les choses selon la pensée que Dieu nous donne dans la Bible. C'est cette crainte de Dieu qu'on a souvent mal compris. On a souvent pensé que crainte veut dire une peur tétanisée. Non. La crainte, c'est un profond respect pour ce que Dieu est et pour ce que Dieu fait. Et la consécration totale, c'est de dire, ma vie tout entière, je veux qu'elle soit vraiment modélée par la parole de Dieu. Parce que cette parole n'a qu'un seul but, c'est de faire de moi un homme et une femme de bien, selon la pensée de Dieu. Un homme et une femme qui aiment Dieu et qui aiment son prochain. Et il se trouve que nous sommes dans une crise, qu'on appelle la crise de la piété. Il y a quelques spécialistes qui se sont attachés à faire cette enquête, il y a quelques temps maintenant, et ils arrivent à la conclusion qu'on ne peut nier que le protestantisme moderne souffre d'avoir abandonné la véritable piété. Et quelques théologiens parlent aujourd'hui de la crise de la piété et de la perte de la piété. En fait, le terme piété est devenu honteux dans notre culture et la religion moderne. Pendant que les chrétiens, dans un monde dit postmoderne, ont honte de vivre la piété, d'autres formes de spiritualité font la démonstration de la piété. Et à tort, je suis désolé, mais c'est à tort, mais on les voit. Ils ont des traits distinctifs. Ils veulent le montrer, ils veulent le démontrer. Il ne s'agit pas de s'afficher avec des traits distinctifs de sa foi. Il s'agit de vivre des valeurs. Il s'agit de vivre des qualités. Il s'agit d'avoir des caractères qui sont ceux que Dieu voudrait que ses enfants aient. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un a dit, c'est pas en me promenant avec un gros livre, marqué la Bible dessus, que je montre à tout le monde, pour que tout le monde voit, parce que c'est écrit en lettres d'or, donc c'est visible de loin, la Bible, en marchant dans la rue, que tout le monde dira, ah, c'est un chrétien qui va là, il a la Bible. Vous savez, des fois, et je ne critique personne, mais je me parle à moi-même, des fois, je préfère ne pas mettre de signes distinctifs sur certaines choses, comme par exemple sur ma voiture. Souvent, certains mettent des signes distinctifs sur leur voiture. Ils ont raison, mais si vous faites ça, faites attention à ce que vous faites dans la voiture. Parce que ceux qui savent que ce signe veut dire que c'est un chrétien dans la voiture, quand vous faites un queue de poisson et que vous avez un poisson derrière la voiture, ça pose un problème. Comme des fois, quand ça m'arrive, mais rarement, mais ça m'arrive des fois, les enfants sont derrière, le feu est à l'orange, et dès que je passe le feu au rouge, ils disent, papa, t'as grillé le feu. C'est vrai que des fois, j'ai envie de me défendre devant les enfants, et des fois, j'ai dit, c'est vrai. Ouais, j'aurais dû peut-être m'arrêter les enfants. On ne le fait pas par rigidité religieuse, on le fait parce que c'est de bonnes valeurs. Alléluia. Parce que ça nous fait rentrer dans ce que Dieu veut que nous soyons, des hommes et des femmes de bien, selon sa parole. Et cette crise, un certain Mark Lloyd, dans son diagnostic, il a dit, l'Église d'aujourd'hui est paralysée à force de s'auto-analyser. Sa mission est devenue hésitante. Son culte Bien sûr, il est toujours suivi avec respect, mais a perdu son impact. Du haut de la chair, la trompette, donc la parole qu'on rend, rend un son incertain, c'est-à-dire que la parole n'a plus de poids. Parfois, elle est devenue un spectacle. Et comme l'apôtre Paul le disait, beaucoup aiment le spectacle, n'est-ce pas? Et dans certaines communautés, c'est devenu un spectacle. On est content de voir que le prédicateur bouge, fait des gestes et tout ça. Ça nous reste éveillants. Wow. Mais la vraie question, c'est quand tu pars, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que ça t'a aidé à capter dans le projet de Dieu pour toi? Qu'est-ce que ça va apporter dans ta semaine pour que tu sois une femme et un homme de bien? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut reconnaître que cette crise, elle est aussi liée directement au fait qu'il y a une désintégration de la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir la foi, ce n'est pas cool. Avoir la foi, c'est rétrograde. On nous appelle même des conservateurs. Parfois, on nous appelle des fondamentalistes. Il y a des gens qui n'ont jamais bougé depuis le temps des cavernes. On dit, oula, tant quoi à cette époque-là, nous, on a beaucoup évolué hein, depuis. La foi, c'est désintégrer. Avoir la foi, si tu as ta foi, en fait, il faut te la garder pour toi seul, parce que la foi est devenue quelque chose de privé, ce qui n'est pas vrai. Je suis désolé de dire que la laïcité, ce n'est pas la privatisation de la foi. La laïcité, c'est le respect de chacune de nos opinions. Et la laïcité, en tout cas, dans le concept occidental, c'est que désormais, il n'y a plus une seule façon de penser religieusement. Et qu'on est invité à respecter toutes les formes de pensée. Si quelqu'un dit qu'il est athée, bah, il est athée. C'est son choix. Donc, dans ce choix-là, si je dis je suis chrétien, bah, c'est mon choix. Et je ne vais pas taper sur l'autre parce qu'il n'est pas chrétien. Mais moi, je suis chrétien et je vis ma foi. Sans m'imposer à l'autre, mais en vivant ce que je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Or, la foi, elle ne peut pas subsister sans la prière et sans la piété. Elle ne peut pas subsister sans la prière et sans la piété. On peut dire que les chrétiens d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui a besoin de passer plus de temps dans la chambre de prière que dans la salle de festin. Ce n'est pas de moi, c'est d'un auteur. Mais ça m'a parlé aussi. Pourquoi justement nous avons besoin de passer du temps dans la prière? Certains grands, mais c'est nous qui les appelons grands, quand ils étaient vivants, ils ne s'appelaient pas les mêmes grands. C'étaient des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes comme nous. Un certain Spener, John Wesley, Zinzendorf, Richard Baxter, et j'en passe. Ils ont enseigné que les règles spirituelles sont absolument nécessaires dans la vie d'un chrétien. Et ces règles-là, la première, c'est la prière. La méditation de la parole, et souvent ils disent le jeûne, ce temps qu'on met à part pour se consacrer à Dieu. C'est quoi la prière finalement? C'est communier avec Dieu. Vas-y. La prière, c'est communier avec Dieu. Et ce Dieu est créateur du monde. C'est lui qui règne sur ce monde. Il n'est pas un être impersonnel, ça veut dire qu'il a une personne qui veut interagir avec l'être humain. C'est pour ça que nous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres relationnels. Il n'y a pas un être humain qui veut vivre seul. Si ça existe, c'est une pathologie. Parce que tout être humain a besoin d'un contact avec d'autres humains. Et Dieu, il nous a créés comme ça, parce que lui-même, il est comme ça. Il veut interagir avec nous. Il veut communier avec nous. N'est-ce pas? Et même ses lois, parce qu'on dit Dieu n'est pas dans la contingence, c'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus des lois de la création, parce que c'est lui le créateur. Mais comme il est notre modèle, lui-même, il fait l'effort de ne pas enfreindre les lois qu'il nous donne, alors qu'il aurait bien pu, puisqu'il n'est pas lié par ces lois-là. Et la prière, prière et exaucement sont inclus dans son plan. C'est-à-dire que quand nous prions, Dieu a inscrit dans son plan qu'il va répondre. C'est pour ça que la prière est importante, parce que Dieu s'engage à répondre à chacune des prières qui lui est adressée. Et ça, c'est dès le début de la création. Et c'est vrai que la prière est innée. Tout être humain a ce penchant en lui de dire quelque chose à un être qui ne voit pas. Ça se manifeste quand on est dans beaucoup, quand on a beaucoup de difficultés. Même si c'est vrai que dans notre contexte occidental français, à cause de l'athéisme, très peu manifestent que dans une circonstance ou une autre, ils ont prié Dieu. Parfois, ils ne disent pas « j'ai prié Dieu ». Ils disent « j'ai demandé à Dame Nature ». J'ai demandé à Dame Nature. Ah, j'étais perdu, j'ai dit « oulala, comment je vais m'en sortir ?» Et on ne dit pas toujours que j'ai prié. Mais on va toujours une expression pour dire, en tout cas, j'ai fait appel à une force particulière de me venir en aide. Avec des petites expressions un peu superstitieuses, j'ai touché du bois. Tu as touché du bois, pourquoi? Donc, quelque part au fond de nous, tout être humain à cette inscription dans son être intérieur de faire appel à son Créateur d'un moment, à un moment ou à un autre. Et dans les pires catastrophes, on voit même des personnes qui se disaient athées à appeler au bon Dieu. Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et si tu connais la personne, tu dis, oula, je croyais que Dieu ne sortirait pas de ta bouche un jour. Mais nous étions aussi comme ça. Souvenez-vous, avant de rencontrer Dieu, nous étions aussi comme ça. En tout cas, pour quelques-uns d'entre nous. Par contre, la prière du méchant est une abomination à l'Éternel. Le méchant, c'est celui qui n'est pas non seulement en alliance avec Dieu, mais qui pille dans sa vie, fait aussi les choses que Dieu n'apprécie pas du tout. Celui-là, quand il prie Dieu, si un voleur demande à Dieu, Dieu, je veux aller voler Eric demain soir. Permets qu'Eric soit profondément endormi, qu'il oublie de fermer les portes de sa maison, de sorte que mon intrusion soit facilitée. Et s'il y a une alarme, tu la neutralises, Dieu. Dieu répond à ce type de prière. Il me semble que non. Il me semble que non. Donc, un voleur ne peut pas dire que s'il a trouvé ça comme ça, c'est parce que Dieu lui a répondu. Non, c'est faux. Parce que le vol est quelque chose que Dieu n'aime pas. Il ne peut pas répondre à cette prière. Des fois, on se trouve dans des situations où on dit « Ah, Dieu a répondu à ma prière », alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui a répondu. On se souvient d'un témoignage qui nous a un peu déstabilisé. Le pasteur de l'époque a dû monter un peu sur la chaire pour recadrer les choses parce que ce n'était pas du tout évangélique. La personne avait réussi à un examen. Et l'examen était lié à une dernière épreuve. Si elle réussissait à cette épreuve-là, elle avait l'examen. Si elle échouait, elle n'avait pas l'examen. Et c'était un examen en salle et sur table. Et chacun avec sa feuille devant lui devait écrire. Il se trouve qu'elle dit que la dernière question qui était l'une des questions capitales, elle était bloquée. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle dit qu'il se trouve que sa voisine de devant, non seulement écrivait en gros caractères, déjà comment elle savait que sa voisine écrivait en gros caractères, mais qu'en plus, à un moment donné, sa voisine a levé sa feuille pour réfléchir, semble-t-il. Et là, le Seigneur lui a permis de fixer la feuille de sa voisine de devant. Et là, elle a dit, merci Seigneur. Et là, elle a recopié la réponse de sa voisine. Et voilà comment elle a réussi à son examen. Frères et sœurs, remerciez le Seigneur avec moi. C'était un peu... La salle de culte était un peu... Il y avait un sentiment mitigé. Il y avait un sentiment mitigé, il y avait des théologies diverses et variées dans les têtes. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Mais quand même, la sœur a demandé à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne répond pas à la prière du méchant. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ça, ça s'appelle la tentation. Ça, c'est la tentation. Elle a été tentée et elle est tombée dans la tentation. Et elle a péché. Si des choses qui semblent vous aider ne sont pas selon la volonté de Dieu, ça s'appelle la tentation. Tant que vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. Mais si vous commettez l'acte, c'est ça le péché. Et cette sœur, elle n'a pas su discerner entre cette tentation et le fait qu'elle aurait juste pas dû copier ça et mettre sa propre réponse. Elle a triché en fait. Ça s'appelle la tricherie. Ça s'appelle la tricherie passive. C'est-à-dire, tu n'es pas allé chercher, mais tu as quand même regardé. Et dans le code des examens, si on te prend en train de faire ça, bah c'est la tricherie. Tu n'as pas le droit de regarder la copie de ton voisin. Peu importe qu'il est soulevé, qu'il est abaissé, tu n'as pas le droit. Et puis, ce n'est pas à toi, c'est à ton voisin. Il y a la propriété intellectuelle. Bref, c'est pour illustrer que Dieu ne répond pas à la prière du méchant. La prière, c'est cette communion de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Elle inclut l'adoration. L'adoration, c'est ce temps où le chrétien vraiment voit les qualités, les attributs de Dieu et il est enchanté de découvrir que ce Dieu qu'il connaît et qu'il commence à connaître est un Dieu tellement magnifique. Vous savez, des fois, vous êtes en train de voyager et vous découvrez des pans de paysage et vous dites, waouh, incroyable. Et parfois, ce n'est pas des paysages aménagés, hein? C'est des paysages sauvages. C'est la création de Dieu. Moi, je suis émerveillé à chaque fois que les scientifiques trouvent quelque chose dans l'univers. Ça n'empiète pas sur la qualité de ma foi. Au contraire, ça fait grandir ma foi. Parce que ma foi me dit, dans le premier livre de la Bible, que Dieu créa le ciel et la terre. Il est le créateur de l'univers. Et que ce que nous connaissons nous donne de l'adorer, et ce que nous ne connaissons pas, bah, les siècles qui viennent nous le démontreront aussi. Et tout ce qu'on apprend nous montre qui il est en fait. C'est ça l'adoration. L'action de grâce, c'est de remercier Dieu, comme je l'ai dit ce matin, le source de vie, les choses pour lesquelles il nous épargne, dont nous n'avons aucune conscience, les choses qu'il nous donne, la famille que nous avons. On dit français est un râleur. Le français, il n'est jamais content. Il râle sur tout. La plus belle expérience d'un français ou de quelqu'un d'un contexte français, c'est quand il va dans d'autres pays. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais responsable du groupe universitaire en ce moment-là et je recevais des étudiants français qui venaient faire des stages en Afrique. J'ai reçu comme ça quelques-uns, des médecins, des jeunes médecins et tout ça. Et ils étaient toujours à la fin de leur séjour en train de dire, moi si je retourne, je ne veux plus jamais râler. Parce qu'ils voyaient que quelque part ici, il y avait de l'abondance et ils étaient tout le temps en train de râler. Et que là-bas, des fois, des gens qui ne sont pas dans l'abondance ont la patate de la vie. Ils ne râlent pas, ils avancent. Il y a des statistiques qui montrent que malheureusement dans les pays dits développés, le taux de suicide augmente. C'est-à-dire qu'on a tout matériellement, apparemment, mais le taux de suicide augmente. Et dans les pays pauvres, le taux de suicide, il est quasiment nul, quasi nul. Pourtant, c'est des gens qui parfois n'ont pas un repas par jour. Mais ce n'est pas des gens qui demain matin vont se pendre. Parce qu'il y a quelque chose en eux qu'on appelle la résilience. L'envie de vivre et d'espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain. quotidien. C'est ça, cette espérance-là. La prière est donc l'effusion du cœur devant le Créateur, devant le Dieu, notre Père. Jésus ne dit pas, si tu pries, dis Dieu qui est distant. Il ne dit pas, si tu pries, dis « Oh, mon Créateur que je ne connais pas, qui est loin. » Il dit, tu as une filiation avec lui, il s'appelle ton Père. Si tu pries, dis « Mon Père qui est aux cieux. » Jésus nous fait rentrer dans une filiation, dans un lien de communion, de familiarité avec Dieu. C'est énorme cette familiarité. Je ne sais pas, asseyez-vous un jour et puis imaginez qui est Dieu. À la taille de l'univers, mettez-le à la taille de l'univers. C'est incroyable. C'est un être qui est au-delà de l'univers connu et inconnu. Il s'appelle Dieu et s'est révélé en Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est ton Père, qu'il est mon Père, qu'il est notre Père. Et qu'on peut communier avec lui et qu'il nous entend. Et qu'en plus, il a décidé de nous répondre. L'Éternel écoute toutes les prières sincères. Toutes les prières sincères. Même les prières de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui demandent des choses qui sont dans sa volonté. Si un chrétien aime un homme ou une femme, une chrétienne aime un homme, un chrétien aime une femme, et qu'il désire se marier, il désire quelque chose de noble. Si un non-chrétien aime une femme, ou un chrétien aime, une chrétienne aime un homme, et qu'elle désire se marier, et qu'elle prie que Dieu l'aide à se marier, et qu'elle se marie, c'est Dieu qui a répondu, puisque c'est dans la volonté de Dieu. Vous voyez la nuance entre Dieu ne répond pas aux prières des méchants, et Dieu écoute toutes les prières sincères. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire, les méchants dans ce texte-là, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas ceux qui font le mal seulement. Non, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le terme méchant dans la Bible prend plusieurs significations dans chacun des contextes. C'est pour ça que je vous ai illustré la prière du méchant avec la prière du voleur ou la prière de la sœur qui a triché. Ça, c'est des prières que Dieu n'exauce pas. Mais un être humain qui prie dans une situation de détresse, Dieu entend, qu'il soit chrétien ou pas. Et Dieu lui montre son amour. Et c'est par là que Dieu nous attire des fois à lui. Combien de témoignages n'ont pas été faits comme ça? J'étais pas chrétien, mais j'étais dans une situation où j'ai dit, si tu existes, Dieu, fais quelque chose. Et cette chose s'est faite. Et là, j'ai compris qu'il était vivant et qu'il existait. Et le dimanche qui a suivi, j'ai cherché une église. Et c'est comme ça que je me suis donné à Dieu. Parce que Dieu écoute toutes les prières sincères. Parce que dans ses prières, quand il répond, il montre aux humains qu'il est là, qu'il existe, qu'il les écoute et qu'il les aime. À plus forte raison, la prière des chrétiens. Et ce modèle de prière que Christ nous a laissé, dans le Notre Père, cette articulation du Notre Père nous montre la façon dont nous sommes invités à modeler nos prières. Il est peut-être intéressant de commencer vos prières en toujours remerciant Dieu, en l'adorant, en disant ce qu'il est. Ce n'est pas la quantité d'heures qu'on met dans la prière qui est importante, c'est comment on formule nos prières. Et il faut être sérieux aussi dans nos prières. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une anecdote. Il y a cette sœur qui, semble-t-il, avec ses enfants, avait faim. Et comme d'habitude, il faut prier pour manger. Et elle ne voulait pas vraiment prier. Et elle a dit, Seigneur, comme d'habitude, amen. Comme d'habitude, amen. Souvent nous sommes... Heureusement qu'il est notre Père. Hein? C'est pour ça que je dis notre Père. C'est-à-dire parce qu'il est notre Père, nous pouvons comprendre, nous qui sommes parents. Parfois, les enfants font des choses, tu as envie de... Et tu te dis, non, c'est un enfant, ça ne sert à rien. Il est encore trop petit. Et Dieu, il fait ça avec nous. Mais il ne faut pas abuser. Donc, remerciez Dieu. Dis ce qu'il est. Aussi, dans la prière, c'est notre souci de la volonté de Dieu, du retour de Christ. Cette volonté, c'est, je veux tellement que ta volonté se manifeste dans le monde, parce que ta volonté, elle est bonne, Et si elle se manifeste dans le monde ne sera que meilleur. Et puis, il nous donne la permission de lui demander ce dont nous avons besoin, les requêtes. Il ne faut pas, s'économiser à demander des choses à Dieu. Quand des fois, même si ça paraît banal, et puis lui demander de nous garder justement des tentations, comme celles que j'ai décrites tout à l'heure. Il dit, garde-nous des tentations, garde-nous des tentations. Elles sont là, mais donne-nous la force d'y résister et de ne pas y tomber. Et puis, il y a cette grande articulation dans le pardon. Vas-y encore, s'il te plaît. Et la fin de cette prière, parfois, elle doit nous faire réfléchir. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que Jésus, il est pédagogue. Dans cet accent de la prière, il a mis un enseignement pour que toi, tu sois vigilant, pour que je sois vigilant. L'enseignement, c'est, tu veux que je te pardonne? Bah, apprends aussi à pardonner. Parce que si, avec Caroline, on a eu une petite tension et que je ne suis pas passé sur le pardon de ça et que je me mets le lendemain à prier en disant, Seigneur, pardonne-moi mes offenses vis-à-vis de toi quand je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et que c'est pas vrai que j'ai pas pardonné à Caroline la veille au soir. Ça veut dire que cette condition, je la remplis pas. Donc Dieu, il va pas me pardonner aussi mes offenses. C'est ça que ça veut dire. Donc Dieu fait œuvre de pédagogie. C'est pour ça qu'il dit, avant de venir dans la maison, pose ton offense. Et s'il y a des choses à régler, règle. Et après, viens. C'est une invitation à faire en sorte que les relations humaines dans le plan de Dieu, soit toutes les relations apaisées. C'est ça que Dieu veut. C'est son projet d'amour pour nous. Des relations apaisées. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours dans la seconde qui suit qu'on va le faire, mais ouvrir notre cœur à ça. Ok? C'est important. Vas-y. Et je termine avec « Exerce-toi à la piété ». C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 7 à 8, « Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie, pour le présent et pour l'avenir. » Il semble qu'au moment où Paul écrit ça à Timothée, dans la ville où Timothée est, les jeunes gens aimaient le sport. Hein? C'était une vie sportive vraiment très active, dans la Grèce de l'époque. Donc on voyait ça. Et dans cette Grèce de l'époque, j'entends un son. Tu peux voir peut-être que c'est un des appareils qui... Tu le coupes simplement, s'il te plaît. Et il dit, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, prendre soin de son corps, c'est important. Mais prendre soin de son âme, c'est encore plus important. Parce que le corps, il est mortel. Mais l'âme, elle est éternelle. Donc, il y a une action là, à s'engager dans l'exercice de la piété, apprendre à prier, persévérer dans l'apprentissage de la prière. C'est bon. Et comment on fait ça aussi en communauté. En venant les mardis, en venant les dimanches, prier ensemble, prier en famille. C'est important. Grandis dans ces choses. Apprendre à les faire. Persévérer dedans. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis finalement, quelques balises lorsque nous prions. La prière, en tout cas pour nous les chrétiens, doit être prononcée au nom de Christ. Parce qu'il y a une garantie. Selon 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il dit, sa volonté, c'est que nous croyons en Christ Jésus qu'il a envoyé et au Père qui est dans les cieux. Donc, nous passons par Jésus parce que c'est ce médiateur. Son nom en tant que fils de Dieu est comme un chèque en blanc que Dieu nous donne. C'est pour ça que nous prions beaucoup de fois dans le nom de Jésus. La prière s'adresse à Dieu, au Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Dieu est un dans sa manifestation des trois personnes. La prière implore également Christ de le ressusciter. C'est lui qui nous écoute, qui est notre avocat. C'est lui qui intercède pour nous. Et la prière est offerte à Dieu par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu parce qu'il vit avec nous. C'est lui qui nous donne le discernement de demander des choses selon la volonté de Dieu. L'exemple que j'ai pris, par exemple, de cette sœur, elle n'a pas écouté le discernement de l'Esprit. Sinon, on n'aurait pas demandé ce qui s'apparente, ce qui c'est que la tricherie. Je vous invite pour terminer à prier ensemble. Priez le Notre Père. Descends encore, je pense qu'il y a peut-être le Notre Père en bas, je pense. Non? C'est là, c'est écrit là, non? Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va prier ensemble. En tant qu'Église unie, je demande de vous tenir debout. Comme ça, on aura tous appris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne la connaissent pas cette prière, on va la prendre là. Et pour ceux qui la connaissaient, bah, ça va être encore quelque chose qui est acquis à nouveau. Alors, ensemble, lisons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Asseyez-vous. Amen. Et nous allons chanter avec le groupe de louanges. Nous allons chanter le dernier chant avant la prédication. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'aimerais que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes qui prient. Que cette église soit une église où on prie. Avec la conviction que Dieu veut que l'église prie. Pour que sa main continue de se manifester dans le monde.
J'entends les chaînes chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les
Amen.